Il est 9h sur France Culture. Et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Cela pourrait être la plus grande offensive en Irak depuis l'invasion américaine de 2003. La bataille de Mossoul a commencé, offensive lancée par les forces irakiennes pour reprendre la deuxième ville du pays au groupe État islamique. Daesh avait pris le contrôle de Mossoul il y a plus de 2 ans. Aujourd'hui, il serait au moins 6 000, peut-être 11 000 à tenir encore la ville. Face à eux, 30 000 soldats issus de l'armée irakienne, mais aussi des milices peshmerga kurdes ou encore des volontaires sunnites. Bonjour Eric Bigala.
Bonjour Catherine.
Le secrétaire à la défense des États-Unis, Ashton Carter, parle d'un moment décisif, mais cette bataille s'annonce longue et dure, Eric.
Oui, pratiquement depuis le début de leur présence en ville, c'est-à-dire depuis 2 ans, les djihadistes ont organisé leur défense. Les estimations sont variables, mais aussi entre 5 000 et 12 000 combattants de l'État islamique qui tiendraient l'agglomération. Ils disposent d'un armement sophistiqué, en grande partie puisé sur place, puisque lors de la prise de la ville en juin 2014, les djihadistes avaient également fait main basse sur l'équipement et l'armement de la seconde division de l'armée irakienne qui avait dû fuir précipitamment. On peut imaginer que, comme pour la plupart des villes qu'ils ont un temps contrôlées, les djihadistes ont proprement miné la totalité des abords de la cité, allant parfois jusqu'à piéger les lampadaires urbains. Les 5 ponts sur le Tigre qui traversent Mossoul sont en tout cas déjà minés eux aussi. Selon un ancien djihadiste de Mossoul ayant fait défection et longuement interrogé par Newsweek la semaine dernière, les combattants de l'État islamique sont également en possession d'armes chimiques, du chlore et du gaz moutarde. Selon la même source, ils ont surtout élaboré un très important système de tunnels, un véritable réseau souterrain qui leur permettrait de contre-attaquer un peu partout en ville dès que les assaillants cesseront à pénétrer dans l'agglomération. Reste à savoir comment effectivement l'armée irakienne compte procéder pour réduire la ville. Le plus probable d'ici les prochains jours, c'est que les forces combinées irakiennes et kurdes de Peshmerga qui attaquent par le nord, l'est et le sud essaieront aussi de bloquer les accès ouest de la ville, de couper l'État islamique de ses arrières, c'est-à-dire des routes vers la Syrie et l'autre place forte des djihadistes à Raqqa. Mais les Irakiens pourraient aussi choisir de laisser aux djihadistes cette porte de sortie vers l'ouest, histoire de ne pas se retrouver à devoir combattre en ville, c'est-à-dire maison par maison, un ennemi de plusieurs milliers d'hommes qui ne se rendront pas et qu'il faudra réduire les uns après les autres, ce qui risque de prendre des mois.
Merci beaucoup Eric Bigala. Et l'ONU se dit extrêmement préoccupée par la sécurité 1,5 million de personnes qui pourraient être touchées par les opérations militaires, par cette bataille de Mossoul. Les djihadistes du groupe État islamique qui ont également perdu la ville syrienne de Dabik ce week-end. Une défaite infligée par des rebelles soutenus par la Turquie. Dabik, ville symbolique pour les djihadistes qui pensent, selon une prophétie, que cette localité serait le site d'une bataille déterminante entre les armées musulmanes et les armées chrétienne, bataille finalement gagnée par les armées musulmanes selon cette prophétie. Je leur avais fait 2 promesses, sauver le site et éviter tout plan social. Elles ont été tenues. Les 650 salariés qui travaillaient sur le haut fourneau ont été reclassés sur place et aucun n'a été licencié. C'est François Hollande qui soigne sa communication dans une interview ce matin aux journaux du groupe Ebra avant un déplacement à Florange sur le site des hauts fourneaux d'ArcelorMittal en Moselle. Il y a bientôt 5 ans maintenant, le candidat Hollande était monté sur une camionnette de la CFDT pour promettre de sauver les hauts fourneaux de Florange. Ils ont finalement été fermés en 2013. L'agence de biomédecine lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation au don du rein vivant. Les maladies rénales sont des conséquences de l'hypertension artérielle, du diabète ou encore d'anomalies anatomiques. La liste d'attente pour une greffe de rein varie entre 12 et 15 000 personnes, mais seulement 16% des greffes se font via un donneur vivant. Les explications de Louise Rollet.
Atteindre les 700 greffes rénales via des donneurs vivants, c'est l'objectif de cette campagne. La méthode n'est pas assez développée, jugent les spécialistes. Une méthode qui possède pourtant plusieurs avantages, selon le docteur Patrice Guérini, en charge des prélèvements et des greffes à l'agence de biomédecine.
Ça va être une intervention qui va être programmée. Le donneur va subir au cours de la qualification, entre guillemets, de différents examens qui vont permettre de noter qu'il est en parfaite santé et surtout que pour lui, il n'y aura pas de retentissement de prélèvement de son rein. Et pour le receveur, ça sera un rein de très bonne qualité.
La plupart des donneurs sont des proches du malade, un membre de sa famille ou une personne avec laquelle il a un lien affectif. C'est le cas de Pauline de Rochambeau. Depuis maintenant 11 ans, elle vit avec le rein d'une de ses sœurs. Cette opération, elles l'ont mûrement réfléchie, mais elle reste anxiogène.
Et j'avoue que c'est terrible de penser, ça me donne des frissons, frisson de penser que sa sœur, qui est en bonne santé, se trouve en train d'être ouverte et qu'on va lui enlever son rein alors que c'était moi qui étais malade.
Ce don est un cadeau, mais elle a eu besoin de temps pour s'y adapter.
J'avais un rein qui au départ était le rein de ma sœur Catherine et donc je ne pouvais pas lui dire ton rein. Et en fait, très vite, on l'appelait Harry et je lui donnais des nouvelles de Harry. J'ai continué de faire des choses, c'est-à-dire que quand je voyage, il m'arrive de lui envoyer des cartes postales avec un merci. Et elle sait qu'à ce moment-là, j'ai vraiment pensé à elle et que c'est grâce à elle que je peux faire tout ça.
Des problèmes rénaux, Pauline de Rochambeau sait qu'elle peut encore en avoir, mais elle a passé le cap des 10 ans grâce à l'organe de sa sœur et en moyenne, un rein provenant d'un donneur vivant est fonctionnel plus longtemps.
Le temps de ce lundi 17 octobre, couvert et même pluvieux des Ardennes jusqu'en PACA, partout ailleurs des nuages et de timides éclaircies. Au meilleur de la journée, il fera 15 degrés à Charleville-Mézières, 16 à Bourg-en-Bresse, 17 à Dunkerque et Paris, 18 degrés à Vannes et 22 à Dax. Cette édition a été réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal de la rédaction, c'est à 1h30 avec Benoît Bouscarel.